Les séminaires du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, dans mon cours, je propose d'analyser le langage des juristes romains ainsi que le nôtre du point de vue spécifique de métaphore. Vous venez de l'entendre. Mais pour identifier les métaphores, il faut d'abord savoir ce qu'elles sont. C'est à cette fin qu'est consacré le cycle des 6 conférences qui accompagne cette année mon enseignement à raison d'une séance tous les 15 jours et qui s'ouvre aujourd'hui avec M. Laurent Pernaud, l'un des grands spécialistes contemporains de la rhétorique antique et de la culture grecque et latine. Professeur émérite à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut de France, élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il contribue activement à la promotion des études sur l'Antiquité et la diffusion du savoir humaniste, ses travaux se distinguent par une approche à la fois philologique, historique et culturelle, qui met en lumière le rôle central de la parole publique dans la formation de la pensée, de la vie politique et des identités grecques et romaines. Ses nombreux ouvrages sont devenus des références internationales, telles la rhétorique dans l'Antiquité, c'est un livre vraiment magistral qui enseigne tout ce qu'il faut savoir de la rhétorique dans l'Antiquité, qui est apparu en 2000. Un autre livre fascinant, paru aux Belles Lettres en 2008, porte sur l'école des anciens, professeurs, élèves, étudiants. Ou encore, je vous suggère le livre Actualité de la rhétorique, dans lequel, avec l'une des grandes figures du Collège de France, Marc Fumaroli, Laurent Pernaud réfléchit au rôle joué par l'histoire de la rhétorique dans la recherche littéraire en France. À travers l'ensemble de son œuvre, Laurent Pernaud a contribué à renouveler la compréhension de la rhétorique, non seulement comme technique oratoire, mais aussi comme instrument d'analyse des phénomènes des civilisations. Je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté notre invitation. Et je me dispose maintenant, comme vous, à l'écouter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos paroles, monsieur le professeur, chers confrères. Je suis très heureux de venir devant vous parler d'un sujet qui est cher à tout spécialiste de rhétorique, le sujet de la métaphore. Donc, vous voyez mon titre qui s'affiche à l'écran et qui comporte, entre guillemets, une citation. Donc c'est une citation de l'institution oratoire de Quintilien, ce vaste traité qui est une somme sur la rhétorique, composée à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Je dirais que s'il y a un seul livre à lire sur la rhétorique antique, parmi tout ce qui existe en grec et en latin, c'est en première ligne l'institution oratoire de Quintilien, qui est l'ouvrage le plus complet et en même temps le plus facile à approcher. Et donc, nous voyons que Quintilien définit la métaphore par la formule suivante. « Commençons donc par le tour qui est à la fois le plus fréquent et de loin le plus beau, le transfert, en latin tralatio, translatio, qui est appelé en grec métaphore. » C'est une phrase qui paraît une phrase d'introduction un peu incolore, mais comme souvent avec Quintilien, ce qui paraît simple est profond. Quintilien nous dit ici qu'il y a deux points à considérer. D'une part, la fréquence. La métaphore est un procédé fréquent qui fait partie de la langue de tous les jours, mais aussi, d'autre part, la beauté. La métaphore, c'est un ornement littéraire, le plus beau des ornements littéraires. Et donc, en quelques mots, Quintilien trace ici une problématique à travers une sorte d'oxymore. La métaphore peut être aussi bien banale que sublime. Donnons tout de suite des exemples. Exemple de la banalité, lorsque nous disons en français le bras du fauteuil, le mot bras, tiré donc du corps humain, désigne la partie de ce meuble. Nous disons aussi le bras d'une rivière, nous disons un bras de mer pour une subdivision latérale. Ça, c'est la métaphore dans son emploi courant. Mais il y a aussi des emplois bien plus relevés. Alors commençons par un exemple. Voici un exemple du traité du style d'Aragon. Donc c'est dans la période où Aragon se rattache encore au surréalisme. Je parle un langage de décombre où voisinent les soleils et les plâtras. C'est presque difficile à comprendre, hein, à force de métaphores. Donc les décombres, ben, ce sont les déblais qui restent après l'écroulement du bâtiment. Les plâtras, c'est la même chose finalement, mais avec focalisation sur les débris de plâtre. Et donc nous comprenons qu'il y a l'espoir d'un renouveau, symbolisé par les soleils, qui doit surgir de la destruction des formes anciennes. Donc on détruit la maison pour que les soleils apparaissent. Et donc ce sont les métaphores qui nous font passer ce message. Autre exemple d'emploi poétique de la métaphore, le très fameux début du cimetière marin de Paul Valéry. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent entre les tombes. Et qu'est-ce que c'est que ce toit? Et donc il va falloir attendre le vers 4. Midi le juste y compose de feu la mer. La mer. Et voilà la solution de l'énigme. Donc ce toit, c'était la mer. Et du coup, rétrospectivement, tous les autres éléments métaphoriques retrouvent leur sens. Et les colombes sont donc les voiles. Marcher veut dire voguer. Sur la mer, ce toit tranquille où marchent les colombes palpite. Ce toit qui palpite, c'est la mer qui miroite, puisqu'elle est tranquille. Et entre les pins, entre les tombes, par contre, ça c'est vrai, puisque le cimetière marin est effectivement, comme vous le savez, près de 7 plantés de pins, et par définition comporte des tombes. Donc ces quelques exemples nous donnent déjà comme une idée de la complexité de notre sujet qui va du bras du fauteuil jusqu'au cimetière marin. C'est un domaine colossal, la métaphore, qui a intéressé beaucoup de très grands penseurs. Et donc mon propos, c'est simplement de lire avec vous quelques passages de traités antiques. Il ne s'agit pas de faire une histoire complète, bien sûr, de souligner des moments forts et d'essayer d'en extraire des idées sur la métaphore en montrant une continuité entre tout ce savoir antique et puis les problématiques modernes. Et donc, je prendrai aussi des exemples modernes. Les domaines concernés, bien, ce sont la linguistique, la poétique, la rhétorique et aussi la philosophie. Je commencerai donc par Aristote, l'exposé principal sur la métaphore. C'est le chapitre 21 de la poétique d'Aristote et je vous propose que nous réfléchissions ensemble sur ce chapitre. C'est la référence la plus importante de la pensée occidentale sur le sujet. Je ne sais pas vous, mais moi ce n'est pas sans une certaine révérence que j'aborde un tel texte consacré par des siècles et des siècles. Or, nous allons constater que tout est très simple en réalité dans l'exposé d'Aristote. Partons de l'étymologie du mot « métaphore », donc qui est composé de deux éléments. En grec, « méta », c'est le changement, changement de lieu, changement de condition, déplacement. Phora, c'est l'action de porter en rapport avec le verbe phéro. Donc, métaphore veut dire transport, transfert, d'où en latin le calque translatio, parfois écrit tralatio. La métaphore est un transfert. Elle consiste à transférer un mot sur une chose, c'est-à-dire à appliquer à une réalité un mot qui ne lui appartient pas en propre, mais qui vient d'un autre domaine qui lui ressemble. Au fond, le mot métaphore est déjà lui-même une métaphore, puisqu'il exprime, avec l'idée matérielle du transport, le processus intellectuel de transfert. Deux notions sont à l'œuvre. La notion de ressemblance, puisque normalement le transfert se fait vers un domaine qui présente quelques similitudes avec celui, le domaine de départ. Et puis la notion de propriété, ou plutôt d'impropriété, c'est-à-dire qu'il y a un mot propre et la métaphore, c'est le mot figuré, va être l'emploi de la métaphore, l'emploi du mot figuré va produire la métaphore. Donc la métaphore se distingue, s'oppose au mot propre. Sur ces bases, Aristote distingue quatre sortes de transferts. Donc pour apprécier cette quadripartition, il faut connaître une chose au préalable que nous connaissons tous, c'est la distinction philosophique du genre et de l'espèce. Ce sont des outils logiques pour rendre compte des relations de proximité et de différence entre les choses. On appelle genre un ensemble d'êtres ou de réalités possédant des caractéristiques communes. Et de tous ces êtres, toutes ces réalités, on peut parler en général. Et puis au sein d'un genre, on trouve les espèces qui sont des groupes plus réduits que le genre, dans lequel certaines réalités appartenant au genre sont réunies parce qu'elles ont en commun une caractéristique spéciale, species, plus spécifique, l'espèce. Donc, partant de cet outillage logique, nous rencontrons une première sorte de métaphore qui s'appelle du genre à l'espèce, c'est-à-dire transposer un mot qui appartient au genre sur un cas d'espèce. Exemple donné par Aristote, je reprends les exemples qu'il donne, une formule d'Homère qui dit « mon navire est à l'arrêt ». Est à l'arrêt, c'est un verbe très général qui pourrait s'appliquer à tout autre moyen de locomotion ou toute autre personne se déplaçant. Et ce verbe général, est à l'arrêt, est appliqué à un cas spécial, celui du navire, pour lequel il existe un verbe spécifique, c'est le verbe être au mouillage. Un navire est au mouillage. C'est comme lorsque, en français, nous disons « ce livre s'appelle X » au lieu de dire « ce livre s'intitule X ». Vous voyez, « s'appelle », c'est le mot général qu'on emploie. Donc, c'est la première sorte de transposition, ici, un mot relatif au genre qui est transposé sur l'espèce. Alors, il y a le cas inverse, c'est-à-dire un mot relatif à l'espèce qui va être transposé sur ce qui est un genre. Exemple homérique, Ulysse a accompli des dizaines de milliers d'exploits. Alors, des dizaines de milliers, 10 000, c'est un mot spécial, dit Aristote, qui en fait est appliqué à une idée générale, l'idée de la multiplicité. On n'a évidemment pas compté les actions d'Ulysse, c'est une manière de dire. Donc, le mot général serait « nombreux ». Et au lieu du mot général, on a le mot spécifique, dizaines de milliers. Troisième cas, de l'espèce à l'espèce. Donc ici, on est au niveau des réalités précises et on transfère un mot désignant une réalité précise sur une autre réalité précise. Parce que ces deux réalités appartiennent au même genre, en fait. Ici, Aristote donne deux citations d'Empédocle et le passage est très difficile parce qu'il donne seulement quelques mots de la citation. Nous ne la possédons plus en entier, la poésie d'Empédocle, et donc il n'est pas tout à fait simple de voir où résident les faits. Essayons tout de même. Donc le premier exemple que donne Aristote, c'est une phrase qui dit « ayant puisé sa vie avec le bronze ». Donc c'est quelqu'un qui a puisé la vie d'un autre avec le bronze. Dans une phrase comme celle-ci, nous arrêtons sur le mot bronze. Et nous disons, ah oui, le bronze est mis pour objet en bronze, en l'occurrence une épée. Ce qu'on appellera par la suite une synecdoque. Synecdoque de la matière. Mais ce qui intéresse Aristote, ce n'est pas le bronze ici, c'est le verbe. C'est le verbe puiser. Le verbe propre, ce serait couper. Détruire, donc avec son épée, il a coupé, détruit la vie de son adversaire. Et le verbe puiser est une métaphore qui évoque un vase en bronze, puisant de l'eau. Et puis, Aristote donne la citation parallèle mais inverse, qui disait « ayant coupé l'eau avec le bronze indestructible ». Donc à nouveau, le bronze, qui cette fois-ci désigne un vase en bronze, mais la métaphore, elle est dans le verbe « couper », parce que quand on plonge le vase, on interrompt le flot, on coupe le flot d'eau, couper alors qu'on attendait puiser. Donc nous avons deux verbes, puiser et couper, qui sont des espèces du verbe générique enlever, et dans chacun des deux cas, c'est le verbe spécial qui a été mis à la place de l'autre verbe spécial qu'on attendrait. Deux exemples qui fonctionnent ensemble, vous voyez. Nous en arrivons enfin au sommet de l'analyse aristotélicienne, c'est-à-dire la quatrième sorte, la métaphore suivant un rapport d'analogie. Donc ici, il y a un autre préalable, un autre outil logique, c'est l'analogie. En grec, analogon, ça veut dire conforme à une proportion. Donc c'est une méthode de raisonnement qui a été définie par Platon, également en science chez Euclide, et qui désigne une égalité de rapport entre des réalités. Donc l'analogie suppose quatre objets, et le rapport de B à A est identique au rapport de D à C. C'est ça l'analogie. L'analogie est utilisée parce qu'elle, comme outil de réflexion, est découverte parce qu'elle permet de reporter des résultats acquis sur un autre domaine ou un autre problème. Une fois que vous savez qu'il y a le rapport de B à A, vous pourrez extrapoler et mieux comprendre ce qui se passe avec C et D. C'est un moyen de découverte. Et donc la métaphore, du point de vue stylistique pour Aristote, va consister à dire D alors qu'on attendait B, ou B au lieu de D. Exemple. Exemple tiré d'une tragédie que nous avons perdue, mais qu'Aristote lisait, dans lequel il est dit « la coupe d'Arès ». La coupe est un attribut du dieu Dionysos, Dionysos Bacchus, n'est-ce pas, dieu du vin, comme le bouclier est un attribut du dieu Arès, Mars, dieu de la guerre. Il se trouve qu'il y a en plus une ressemblance de forme, parce que la coupe dont il est question, ça s'appelle phialé en grec, c'est une large coupe, sans pied ni anse. Par conséquent, elle ressemble un peu à un bouclier. Là, vous avez à gauche une coupe, à droite un bouclier, et on voit comment visuellement l'analogie peut fonctionner. Analogie donc à la fois logique et visuelle. Dans ces conditions, la métaphore consiste à appeler la coupe bouclier de Dionysos, ou à appeler le bouclier coupe d'Arès. Plus tard, on parlera de métaphores réversibles, comme quand on dit le pilote est le président du navire et le président est le pilote de l'État. Donc, ce sont des métaphores qui se répondent. Autre exemple donné par Aristote pour l'analogie, l'expression « le soir de la vie ». Donc le soir est à la journée, ce que la vieillesse est à la vie, par conséquent, la métaphore consiste à appeler la vieillesse soir de la vie, ou si l'on veut, à appeler le soir vieillesse du jour. Et pour toutes ces formules, Aristote a des exemples d'auteurs précis. Ou encore, un autre exemple qu'il donne dans la rhétorique, un Périclès, grand orateur et homme d'État, célébrant les soldats morts pour la patrie pendant la guerre, dit « l'année a perdu son printemps ». Ce qui suppose une analogie, la jeunesse est à la cité, ce que le printemps est à l'année. La métaphore est double ici, parce que la métaphore simple consisterait à dire « la cité a perdu son printemps ». Et donc il y aurait un échange entre les éléments B et D, hein, jeune gens et printemps. Mais il y a aussi un échange entre les éléments A et C, lorsqu'on dit « l'année a perdu son printemps », sans citer même la ville. Ça commence à se compliquer logiquement, hein, la description est plus complexe. Il y a des variantes, il y a la variante elliptique, par exemple, où l'on donne seulement le terme métaphorique sans préciser A ou C. Par exemple, au lieu de dire la coupe d'Arès, si on dit la coupe. Alors avant de comprendre que coupe, ça veut dire bouclier, et là il faut être porté par le contexte, donc c'est une métaphore un peu plus rude. Ou alors, si l'on dit « quand vint le soir, il rédigea tel ou tel livre », et là on comprend, oui, le soir de sa vie, c'est-à-dire la vieillesse. Il y a aussi, ça c'était la forme elliptique, il y a la forme négative. Par exemple, si l'on dit « la coupe s'en vint », la coupe s'en vint qui sera donc le bouclier, la coupe d'Arès qui n'est pas la coupe de Dionysos, un emploi avec précision négative. Et puis, il y a un cas qui va nous occuper dans le temps que nous allons passer ensemble, spécialement. C'est le cas où il n'existe pas de mot pour désigner B ou pour désigner D. Par exemple, en grec, on dit « semer le grain » dans les travaux agricoles, mais, dit Aristote, il n'y a pas de mot pour diffuser la lumière. Pour diffuser. Donc, la métaphore va consister à dire le soleil sème ses rayons. Mais le verbe semer ne prend pas la place d'un mot existant puisqu'il n'y en a pas. Ce cas paraît marginal, mais en réalité, il est très important. C'est le cas de la métaphore utilisée quand il n'existe pas de mot propre. Donc j'y reviendrai. Rappelons-nous l'exemple cité tout à l'heure, le bras du fauteuil. C'était un cas où il n'y avait pas de mot spécifique pour désigner le bras d'un fauteuil. Donc bras prend la place d'un ensemble vide. Voilà, donc nous avons suivi Aristote dans son énumération des différents cas. C'est une procédure philosophique, c'est la définition par division. On définit l'objet en énumérant toutes ses parties. Si l'énumération est correcte et exhaustive, alors on peut dire que la définition est satisfaisante. Aristote a procédé de cette manière. Vous avez senti qu'il y a une gradation dans ces quatre cas qu'il a distingué. Le premier, le navire est à l'arrêt, nous ne dirions plus aujourd'hui que c'est une métaphore, en tout cas c'est très fade, tandis que les derniers exemples avec l'analogie sont plus puissants. Je voudrais maintenant m'arrêter un petit peu pour réfléchir avec vous sur ce que vient de nous dire Aristote, pour comprendre dans quel esprit il travaille. La poétique, d'où est tiré ce que j'ai dit, fait partie des œuvres dites ésotériques d'Aristote. Les œuvres, il y avait deux catégories d'œuvres d'Aristote. Les œuvres exotériques destinées à l'extérieur étaient les œuvres destinées à la publication. Et puis les œuvres ésotériques sont les notes qu'Aristote prenait en vue de ses cours. Donc ce sont des notes très, très concentrées, parfois obscures, à son propre usage. Pensez un peu si Aristote avait pu venir à ma place ce soir pour s'expliquer directement sur ces quatre cas de métaphore. Je pense que le système nous apparaîtrait sous des couleurs merveilleuses. Donc, nous savons qu'Aristote, en plus de la poétique, avait écrit plusieurs œuvres sur les poètes, des recherches sur la poésie. Donc, c'est une théorisation appuyé sur des recherches érudites. La date de la poétique, probablement autour de 330 avant Jésus-Christ, ça veut dire à la fin de l'époque classique athénienne, 5e, 4e, ça veut dire que quand Aristote écrit, il a derrière lui tout un passé culturel qu'il domine. Il y a un passé de pratique poétique, Il y a des siècles et des siècles que les poètes grecs utilisent des métaphores. Homère, bien sûr, Pindare, grand spécialiste des métaphores, et puis à Athènes même, dans les concours de tragédie, les concours de comédie, il y a une pratique poétique assidue. Avant Aristote, il y a eu aussi des théorisations. Aristote sait que les sophistes, au siècle précédent, ont inventé la grammaire. Il sait que Platon, dans le Cratyle, s'est penché sur le langage et en particulier s'est posé la question de savoir si les mots étaient propres, si les mots définissaient les choses ou s'ils étaient au contraire purement conventionnels. Il sait qu'Isocrate a déjà parlé de la métaphore. Et puis, il sait qu'on a critiqué le langage poétique, et en particulier, avant Aristote, il y a la République de Platon qui critique notamment l'expression poétique. Donc, on voit que la poétique d'Aristote fait partie de tout un phénomène typique de la Grèce archaïque et classique. Il y a eu une triple opération. À la fois l'invention dans la pratique de la métaphore, la théorisation rhétorique, philosophique, et puis la critique. Ça, c'est très grec. Hein. En bien des domaines, les Grecs ont à la fois inventé les choses, inventé la réflexion théorique sur les choses, et inventé la critique de ces mêmes choses. Exemple, la démocratie. Ils ont inventé la démocratie dans la cité, ils ont fait la théorie de la démocratie, Aristote dans la politique, par exemple, et puis ils ont critiqué la démocratie pour ses excès, et ainsi de suite. Même chose pour la mythologie, pour la rhétorique, pour les Jeux olympiques. C'est pour ça, en fait, qu'il y a eu et qu'il y a encore des hellénistes dans notre civilisation occidentale. Permettez-moi cette parenthèse, il ne faut pas manquer l'occasion de le dire, parce que le miracle grec, c'est cette série de théorisations visant à l'universel et qui sont restées dans notre civilisation. La métaphore est donc un exemple de cet apport grec. Aristote intervient donc, comme je viens de le dire, à la suite d'une longue tradition, et il intervient de manière réaliste. L'approche d'Aristote est toujours réaliste. La poésie existe, elle fonctionne, elle plaît, elle fait rêver. Il s'agit de comprendre quelles sont ses règles de fonctionnement. C'est très différent de l'approche de Platon, qui juge le réel au nom d'idées supérieures. Vous connaissez bien ce détail de l'école d'Athènes de Raphaël, la fameuse fresque qui se trouve au Vatican, dans laquelle Platon, à gauche, au centre, à gauche, désigne le ciel avec son doigt levé, tandis qu'Aristote, à droite, désigne la terre. Aristote s'intéresse au sensible, au fonctionnement. La philosophie pour Aristote, c'est un système explicatif. Comment fonctionne le vivant? Ce sera ses traités biologiques. Comment fonctionne une cité? C'est la politique. Comment fonctionnent les phénomènes naturels? Ce sera la physique. Et ainsi de suite. Et donc la poétique appartient à cette démarche. Il s'agit de comprendre comment doit être fait un bon poème. Aristote examine toutes sortes d'éléments. L'intrigue, les caractères, les idées et l'expression. Et dans le cadre de l'expression, il y a les mots, les parties, on y reviendra, les parties du discours, et puis il y a la métaphore. Tout l'exposé d'Aristote est construit de manière à mettre en vedette la métaphore. La métaphore n'est pas seulement une qualité poétique, c'est la qualité principale de la langue des poètes. Il le dit dans le chapitre suivant, là nous parlions du chapitre 21, le chapitre 22 prolonge la réflexion. Il est dit que pour un poète, le plus important, c'est d'être métaphorikos. Ce qui veut dire, c'est les mots en hic, hein, spécialiste de la métaphore. La métaphore est un don naturel. On ne peut pas le prendre à autrui, il faut l'avoir en soi. Et puis, cette superbe et célèbre citation... Bien métaphoriser, c'est observer le semblable. Pardonnez-moi le néologisme métaphorisé. Vous voyez, vous avez un verbe qui veut dire faire des métaphores. Et donc, là, pour bien faire des métaphores, il faut savoir discerner les ressemblances. Ce qui est une idée philosophique importante. Ça veut dire qu'il faut discerner des ressemblances qui ne sont pas évidentes. La métaphore n'est pas seulement un fait d'imagination, c'est un processus cognitif, un processus de compréhension du réel, et en même temps un processus pédagogique. Le poète enseigne de cette manière immédiate et frappante les résultats de sa sagacité, dit Aristote, qui consiste à voir des rapports insoupçonnés entre les choses. L'abstrait prend corps avec la métaphore. D'autres textes d'Aristote nous disent qu'il faut prendre cela au sérieux. Le repérage des similitudes, c'est très important pour le raisonnement par induction, pour les raisonnements hypothétiques. Et donc c'est un moyen d'arriver à une vérité. En somme, la métaphore ne se contente pas de déranger. Elle constitue un nouvel ordre des choses. C'est au fond l'idée que reprendra Paul Ricoeur dans La métaphore vive, et qui prend la suite de cette démonstration d'Aristote. Aristote lui-même utilise des métaphores, d'ailleurs, par exemple dans ses traités scientifiques. Il dit que ce que la plume est à l'oiseau, l'écaille l'est au poisson. C'est lui aussi qui a inventé l'image du tremblement de terre pour le séisme, l'idée de trembler. Il dit aussi que la mer est la sueur de la terre. Alors, ça fait un peu sourire aujourd'hui, mais après tout, l'astrophysique contemporaine utilise aussi des métaphores. Les trous noirs, ce n'est pas vraiment des trous, ils ne sont pas vraiment noirs. Hein. Le Big Bang ou l'axe du mal, l'axe du mal cosmique, tout ça, ce sont encore des métaphores. Donc, idée philosophique et scientifique, c'est aussi une idée qui a des prolongements en littérature. L'idée que la littérature consiste à aller au-delà des apparences, qu'il faut voir les correspondances entre les choses, c'est ce que Baudelaire développera, que le poète doit être voyant, comme le dira Rimbaud. Donc, ça, tout ça donne la portée de la métaphore. Donc je conclue sur ce premier point, ce texte qui est le texte principal. Donc c'est un exposé puissant, hein, avec des divisions, c'est ce qui est le plus frappant quand on lit ce chapitre, des divisions qui fonctionnent encore aujourd'hui. À 2500 ans de distance, dans une langue tout de même différente, eh bien nous sommes presque de plein pied avec les divisions que propose Aristote. Cet exposé pourrait donc paraître un point final sur la question. Eh bien, pas du tout. Le chapitre d'Aristote a été au contraire le début de la réflexion antique sur la métaphore. Je passe donc au deuxième volet de cette présentation, la suite de l'histoire, c'est-à-dire les théories grecques et latines après Aristote. Alors, après Aristote, c'est une immense période qui commence, donc marquons très rapidement quelques jalons. Après Aristote, nous avons l'époque hellénistique, au cours de laquelle se sont faites des recherches très importantes en grec qui sont perdues. Il y a un naufrage des textes hellénistiques de manière générale. Et donc les stoïciens, par exemple, ont beaucoup travaillé sur le sujet, mais nous n'avons plus leurs textes. Un jalon très intéressant est un papyrus conservé à Hambourg, sur la métaphore, qui nous donne peut-être un traité de Théophraste. Théophraste, l'élève et continuateur d'Aristote, qui avait repris le sujet. Ensuite, après l'époque hellénistique, eh bien, nous arrivons à Rome. C'est la fin de l'époque hellénistique du point de vue des Grecs, c'est la fin de l'époque républicaine du point de vue des Romains, avec la rhétorique à Irénus et Cicéron. Et là, évidemment, des traités merveilleux d'une très grande profondeur qui tous abordent le sujet de la métaphore. Et après quoi s'ouvre l'époque impériale avec Quintilien, dont j'ai parlé en commençant, qui marque une pause en quelque sorte. Des traités grecs, parallèlement, il y a beaucoup de traités grecs sur les figures de style et sur la métaphore, et tout cela va se continuer. Ce serait interminable de faire la liste des traités concernant la métaphore jusqu'au Moyen-Âge. Dans tout cet ensemble, nous n'avons pas conservé de critique du système aristotélicien. En tout cas, je ne connais pas de texte qui examine le système aristotélicien. Il faut dire aussi que les textes ésotériques n'étaient peut-être pas disponibles pour tout le monde. Mais la théorisation a avancé, ce qui veut dire qu'implicitement, le système d'Aristote n'a pas convaincu. Visiblement, les rhétoriciens ont considéré qu'ils ne disaient pas le dernier mot sur le sujet, et donc le système a été profondément remanié. Et donc nous allons examiner, si vous voulez bien, maintenant, quelques remaniements qui ne sont pas sans conséquences de la théorie aristotélicienne de la métaphore. Ces remaniements ont d'abord consisté à insérer la métaphore dans des systèmes. Ce que n'avait pas fait Aristote. Aristote faisait simplement une liste des expressions poétiques. Il disait, il y a le mot propre, mais le poète va utiliser des mots étrangers, des mots raccourcis, des mots tronqués, des mots composés et des métaphores. Puis c'était tout. Alors, tout cela a été repris. Donc, le premier système important, c'est le système des tropes et des figures. La notion de trope a probablement été créée par les stoïciens. Donc le mot trope est masculin en français, hein, comme le grec. Et il entre dans une tripartition. Les trois éléments que vous avez sous les yeux, trope, figure de mot, figure de pensée, ont en commun d'être des écarts. C'est l'écart par rapport à l'expression propre, si tant est qu'elle existe, mais enfin, c'est la référence. Alors, le trope, je vous donne la définition la plus courante, la plus simple, le trope porte sur un mot. Ça consiste à employer un mot autre que le mot propre. On a vu les exemples avec Aristote. La figure, en revanche, porte sur plusieurs mots. Et là, il y a deux cas. La figure de mot porte sur la forme, l'expression utilisée. La figure de pensée porte sur le fond, sur les idées. Exemple, prenons un slogan de la prévention routière d'autrefois qui disait « la vue, c'est la vie ». Pour faire comprendre qu'il est important de bien voir et puis d'avoir de bons phares au volant pour éviter un accident. Donc, la vue, c'est la vie. Vous voyez la similitude entre les mots vue et vie. Du point de vue des figures, c'est une paronomase. Si nous le formulons autrement, si nous disons il est très important d'être bien éclairé pour éviter un accident mortel, le contenu est le même, mais la figure a disparu. C'était une figure qui tenait dans les mots employés, vue et vie. Donc figure de mot. En revanche, prenons l'exemple d'une autre figure qui est la figure du serment. On peut un accusé dira je n'ai pas commis ce forfait, je le jure sur les mânes de mes ancêtres. Admettons qu'il dise je n'ai pas commis ce forfait, j'invoque le tombeau de mes aïeux. Tous les mots sont différents. Mais la figure est toujours là, parce que la figure du serment, elle est dans le fond. Donc voilà comment se présente, c'est une épure, hein, la tripartition, trope, figure de mot, figure de pensée. Il y a des complications qui peut-être n'est pas utile d'y entrer maintenant. Donc ce qui nous intéresse, pour comprendre la métaphore, c'est la notion de trope. Vous voyez, la métaphore a été redimensionnée, elle est maintenant cantonnée dans un tiers des formes d'expression. Mais un tiers très important, parce que les tropes, c'est célèbre, c'est un mot technique donc qui intéresse. Je vous cite un passage de ce texte merveilleux de Victor Hugo, La réponse à un acte d'accusation, qui est la justification de son, toute son activité poétique jusqu'à la, la date considérée, c'est-à-dire en fait c'est de son, du romantisme. Hein. Je mise un bonnet rouge au vieux dictionnaire, dit-il. Et là, entre autres, dans ce texte, il explique, et sur l'académie aïeule et douairière, cachant sous ses jupons les tropes effarées, je vis souffler un vent révolutionnaire. Et on a donc cette image de cette vieille dame respectable qu'est l'académie. Il faut lire avec la diérèse, douairière, et cinérèse surière. Et donc, comme des enfants se réfugient sous ses jupes, les tropes effarées, donc effrayées et stupéfaits en même temps. Bon, c'est deux fois amusant, d'une part parce que Hugo était académicien, donc il se moque de son alma mater, et d'autre part parce que ses vers sont absolument pleins de métaphores et d'effets rhétoriques, tout en disant qu'il les repousse. Donc les tropes. Alors, la métaphore a été insérée dans le système, elle est maintenant dans la case des tropes, et elle n'est plus qu'un trope parmi d'autres. Alors, voici la suite des remaniements. Ceci, c'est la liste donnée par Quintilien. Quintilien énumère 14 tropes. Nous n'allons pas les considérer un par un. Il faudrait un séminaire pour chacun. Hein. Ce sont chaque fois des grands problèmes de littérature et de philosophie. La métaphore vient en tête. C'est ce que disait la citation par laquelle nous avons commencé, n'est-ce pas ? C'est le trope par excellence. Donc la métaphore est un trope par ressemblance. On met à la place du mot propre un mot désignant une réalité qui lui ressemble. La synecdoque, c'est un trope par connexion. Par exemple, la partie pour le tout. On dit toujours la métonymie, c'est la partie pour le tout. Et bon. Mais en réalité, pour les anciens, c'est la synecdoque qui correspond à cela. Donc, lorsque nous disons « j'ai des bouches à nourrir », bouche, pour dire enfant, c'est la partie pour le tout. La matière, le bronze, pour dire l'épée, ce qu'on a vu plus haut, c'est une synecdoque. Beaucoup d'effets énumérés par Aristote comme métaphores, en réalité, ont été ensuite classés dans les synecdoques. La métonymie, c'est la correspondance, c'est un trope par correspondance. Par exemple, l'effet pour la cause. Le père qui accueille sa fille en lui disant « Oh, ma joie !» Et donc là, c'est l'effet, la joie, pour la cause, l'enfant, etc. Et puis, il y a des définitions, bien sûr, pour chacun des tropes qui suivent. Donc, Cicéron déjà dit, Aristote avait réuni sous le mot de métaphore des procédés que les auteurs ultérieurs ont distingués. Et donc la métaphore est en train de se réduire un peu dans ce processus. Une autre pression qui s'est exercée sur la notion est son insertion dans le système des comparaisons. Les théoriciens réfléchissent sur les différentes formes de comparaison. Alors, la métaphore est une comparaison au sens où la coupe va être assimilée au bouclier, donc par comparaison des deux objets. Il existe des images. Alors l'image, c'est une description, par exemple description d'une partie du corps. Il y a un aspect visuel dans l'image. Les exemples. L'exemple, c'est l'exposé d'un fait ou d'une action qui a eu lieu et dont on se sert pour conseiller ou pour expliquer. La comparaison au sens précis, c'est la présentation d'un fait semblable mais général, par exemple chez Homère, comme le lion qui descend des montagnes et qui va combattre, etc. De même, le héros, voilà, ça c'est la comparaison homérique. Et enfin, la similitude, c'est une comparaison mais plus brève. Lorsque, entre virgules, on dit « tel un oiseau », Donc il y a là toute une classification et une étude. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que la métaphore est mise en relation avec les comparaisons. Aristote y avait déjà pensé, hein. Il disait déjà qu'il y a une proximité de la métaphore et de la comparaison et qu'il n'y a entre elles qu'une différence de présentation. Lorsqu'on dit « il s'élança comme un lion », c'est une comparaison. Lorsqu'on dit « ce lion s'élança », c'est une métaphore. Donc c'est simplement parce que l'outil de comparaison est absent qu'on a une métaphore. La métaphore se distingue en ce qu'elle ne dit pas comme ce qui lui donne immédiateté, évidence. Quintilien, prenant la question d'un autre point de vue, dira « la métaphore est une comparaison abrégée ». Donc, chez Homère, l'aurore aux doigts de rose, c'est une métaphore. La comparaison serait l'aurore telle une déesse aux doigts couleur de rose. Donc, insertion dans un système sur la force des comparaisons. Un cas encore qui a été soulevé, et là ça va très loin, c'est le changement de définition de la métaphore. Le concept central chez Aristote, vous vous rappelez, c'était genre et espèce. Or, les auteurs ultérieurs ont abandonné ce type de classification, ou plus exactement, ils l'ont réutilisé pour chacun des tropes, pour des cas particuliers. Et en revanche, ce qu'ils ont adopté comme système conceptuel pour définir la métaphore, c'est l'opposition de l'animé et de l'inanimé. C'est le système qu'utilise Quintilien. Il y a donc transfert, c'est toujours la métaphore comme transfert. Alors, transfert de l'animé à l'animé, c'est quand on appelle aîné un pilote alors qu'il est en train de conduire ses chevaux. Donc au lieu de cocher, il conduit son char, hein. Donc lorsqu'on emploie pilote au lieu de cocher, de l'inanimé à l'inanimé, toujours à propos d'Aîné, toujours chez Virgile, il lâche les rênes à ses vaisseaux, au lieu de dire il largue les amarres. Donc la métaphore, c'est l'expression lâcher les rênes au lieu de larguer les amarres. De l'animé à l'inanimé, exemple, lorsqu'on dit le fer au lieu de dire les combattants. Et puis, le plus beau, Quintilien aussi a gradué sa liste, le plus beau, c'est de l'inanimé à l'animé. C'est-à-dire, on prend un objet et on le traite comme un être vivant. Que faisait ton épée à la bataille de Pharsale ? C'est le procédé le plus fort, personnification, grandissement, sublime, audace. Il y a tout ça dans cette dernière forme de métaphore. Il y a en outre beaucoup de subdivisions. C'est un sujet très complexe, hein, la classification des métaphores. Par exemple, Henri Morier, dans l'énorme dictionnaire de poétique et de rhétorique des PUFs, essaye de ramener à des formules mathématiques et géométriques le fonctionnement des métaphores. Et donc, il parle de métaphores tangentielles, dextrogyres, biaxiales. Il y en a des dizaines de pages comme ça. C'est un sujet qui peut être très complexe. Enfin, un dernier point dans ces remaniements de la théorie post-aristotélicienne. Je vais revenir à la question du cas où il n'existe pas de mot propre. Donc Aristote envisageait à l'intérieur de la métaphore par analogie le cas où on fait une analogie avec quelque chose qui n'est désigné par aucun mot. Et alors ce point a été développé par les stoïciens et les théoriciens vont parler de catacrèse. Catacrèse, nous l'avons vu dans la liste des tropes, n'est-ce pas? C'est notre numéro 6. Numéro 6, la catacrèse. En latin, abusio. Donc c'est le cas où il n'y a pas de mot, par conséquent la métaphore change de valeur, elle n'est plus un effet de style exactement, elle devient naturelle et nécessaire. L'exemple que donne Quintilien, c'est le mot parricide, parricida, lorsqu'il est utilisé pour qualifier celui qui assassine sa mère. Donc parricida se réfère au meurtre du père, mais il n'y a pas de mot, dit Quintilien. On pourrait imaginer matricide, mais bon, ça n'existe pas en latin, et par conséquent on utilise parricide faute d'un mot existant. Dans le code pénal, jusqu'en 1994, je crois, on lisait encore « est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitime, naturel ou adoptif, ou de tout autre ascendant légitime. » Donc, la catachrèse existe aussi en français. Sur ces catachrèses, j'ai fait une petite recherche à l'occasion d'une communication de Jacques Joanna à l'Académie qui portait sur le mot « sourcil ». Je vous livre quelques résultats rapidement. Le mot sourcil s'utilise en grec, le mot sourcil ophrus, pour dire un rebord, dans des cas où il n'y a pas de mot grec pour dire cette forme d'objet. Et cet emploi, sourcil au sens de rebord, entre dans des séries. Donc vous avez numéro 1, les mots désignant des parties du corps qui sont appliqués à des phénomènes naturels ou à des formes naturelles. Donc les anciens disent l'œil de la vigne pour désigner le bourgeon, la lèvre d'un vase pour désigner le bord, le genou d'un roseau pour désigner le nœud de la tige. Notre numéro 2, ce sont toujours les parties du corps, mais appliquées à des éléments de paysage. Donc on dit par exemple en grec le pied de la colline, le dos de la montagne, la nuque de la montagne. Et puis la troisième série, c'est le mot sourcil lui-même. Donc le mot sourcil qui dans différentes langues prend des sens métaphoriques. Donc en grec, c'est ce qu'avait montré magistralement Jacques Joanna, le sourcil de la colline, pour dire le rebord tout en haut du sommet. En latin, superquilium s'applique de même à la partie saillante d'un objet. En anglais, je crois bien que brow, qui veut dire sourcil, veut dire aussi le sommet. Brow of a hill. En français, même le mot sourcil, je dois dire que je l'ai découvert à l'occasion de cette recherche, a des sens métaphoriques. Donc en anatomie, le sourcil cotyloïdien, c'est le rebord saillant qui limite la cavité cotyloïde, c'est-à-dire la cavité de l'os de la hanche dans laquelle s'insère la tête du fémur. En architecture, on dit sourcil pour la partie supérieure d'une porte. Et Littré cite même, vous l'avez sous les yeux ici, un mot sourcilier qui signifiait une sorte de corniche pratiquée au-dessus de l'ouverture d'un four. Donc là, on est dans le concret, cas concret dans lequel on a recours à une métaphore parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour désigner cette construction tout à fait spéciale. On pourrait ajouter le cil. Je crois que Ciglio della Strada, ça veut dire le bord de la route. Et on retrouve ce mot de bord. Voilà pour le développement après Aristote. Donc nous avons assisté à un remaniement qui ne change pas fondamentalement la définition de la métaphore, mais qui la systématise et l'enrichit considérablement. Je voudrais maintenant essayer de prendre un peu de hauteur par rapport aux sources pour distinguer d'abord quelques fonctions de la métaphore, donc en m'appuyant sur les théoriciens antiques et puis en prolongeant un peu leurs indications. Je vais d'abord prolonger ce qui vient d'être dit sur la catacrèse. Donc, nous avons vu l'utilisation d'une métaphore pour suppléer à l'absence de mots. C'est le thème de la pauvreté du langage, inopia, comme dit Cicéron, qui nous fait dire, je répète, bras du fauteuil, pied de la chaise, pied d'une montagne, pied de biche, oiseau mouche, c'est la catacrèse. Mais il existe aussi des cas où, dans la langue courante, nous employons des métaphores, bien qu'il existe un mot propre. Exemple, cet homme est un vrai pinson, pour dire qu'il est joyeux. Ou inversement, c'est un bonnet de nuit pour dire qu'il est lugubre. C'est un agneau, tendre et naïf. C'est un ours, il est renfrogné. Nous disons répondre sèchement, se tromper lourdement. Une voix argentine ou une voix cristalline pour dire une voix claire. Et la liste serait immense. À ce moment-là, on parle de métaphores lexicalisées. C'est-à-dire de métaphores qui sont devenues des unités lexicales. Ce n'est pas une catégorie radicalement distincte de la catacrèse dont je viens de parler, mais c'est le prolongement de celle-ci. Dans le cas de la catacrèse, il n'y a pas de mot propre. Dans le cas de la métaphore lexicalisée, il existe un mot propre, mais il est moins parlant. C'est quand même mieux de dire une voix cristalline que de dire une voix claire. On sent bien la différence. Et donc la métaphore lexicalisée rend la langue plus précise et plus expressive, tout en étant totalement courante et ordinaire. C'est ce que voulait dire Montaigne dans la citation que vous voyez là. « Oyez dire métonymie, métaphore, allégorie et autres tels noms de la grammaire. » Semble-t-il pas qu'on signifie quelques formes de langage rares et pèlerins ? Ce sont titres qui touchent le babil de votre chambrière. Donc Montaigne veut dire que la métaphore est un grand mot qui paraît s'appliquer à des paroles rares, mais qu'en réalité, il s'applique très bien au langage courant, le babil de votre servante, la chambrière. Donc le mot est recherché, mais la réalité est omniprésente. Ici, il faut citer un livre très important, le livre de Marc Fumaroli, paru aux éditions Bouquin en 2012, intitulé « Le livre des métaphores ». Marc Fumaroli, dont le nom a été rappelé tout à l'heure, qui est titulaire de la chaire rhétorique et société en Europe du Collège de France de 1987 à 2002, a consacré une partie de sa vie à recueillir les métaphores de la langue française, et il les présente dans ce livre qui fait plus de 1000 pages. Elles sont classées par domaine, métaphores empruntées au fonctionnement de l'univers, tirer des plans sur la comète, s'éclipser, métaphores empruntées au domaine du corps, faire le gros dos, jouer des coudes, etc., etc. Et il montre ainsi que la langue est remplie de locutions anciennes, délectables, qui sont de nature métaphorique, tantôt populaires, tantôt cultivées. Je cite, « Ce sont de fulgurants, évidents et stupéfiants énoncés de la poésie que ce passage du propre au figuré. Merveilleux fossiles incrustés dans une langue moderne, d'un état ancien et choral de l'invention poétique et sapientiale. » Vous reconnaissez le style de Marc Fumaroli. Le sous-titre de son livre est « Essai sur la mémoire de la langue française ». Les métaphores ne sont pas toutes originales. Celles qui existent dans la langue sont porteuses d'une mémoire. Ce qui m'a fait penser à un autre grand esprit, Ernst Robert Curtius, grand critique, historien de la littérature et critique actif notamment dans l'entre-deux-guerres, auteur de La littérature européenne et le Moyen-Âge latin, paru en 1948, qui a été traduit en français et puis en d'autres langues, dans lequel Curtius a voulu dégager des cadres de pensée, des thèmes qui ont existé depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et il considère que ces cadres, ces thèmes, ont été formés en grande partie par la rhétorique. Il les appelle topoi, mais topoi au sens laudatif. C'est le contraire de l'emploi qui veut dire cliché, stéréotype. Le topos, c'est des espèces de lignes de force de l'histoire de la culture en Europe. Qui, par exemple, l'idée de la déesse nature, la définition du héros, la description du paysage idéal, et il y en a bien d'autres. Or, le livre de Curtius comprend un chapitre sur les métaphores. Donc il inclut dans ses topoi des métaphores tirées de la navigation, des parties du corps, du théâtre, qui sont donc des lignes profondes de la culture européenne. Revenons à Marc Fumaroli. Naturellement, je me suis demandé si le droit faisait partie des domaines pris en compte par Marc Fumaroli. Son livre comporte effectivement un chapitre intitulé, je cite, « La chicane, le droit et la justice », page 1027 et suivante. Et on y trouve des expressions comme « faire amende honorable »,« donner un coup de canif dans le contrat », « sous bénéfice d'inventaire », et beaucoup d'autres métaphores qui se réfèrent au droit, alors parfois au droit de l'Ancien Régime, parfois à des réalités plus proches. C'est donc l'inverse de la perspective proposée par le cours du professeur. Il ne s'agit pas d'utiliser des métaphores dans la langue du droit, mais au contraire, d'utiliser dans la langue commune des expressions qui viennent du droit. Je poursuis cette parenthèse sur métaphores et droit. Je n'ai rien trouvé dans le matériel antique qui pose directement la question de savoir si l'on utilise des métaphores dans le langage juridique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais je n'ai pas trouvé. Il y a des publications sur l'usage de métaphores dans le droit actuel, quelques-unes. Et puis, à l'occasion du colloque de la Société ibéro-américaine de rhétorique, qui s'est tenu à La Plata, en Argentine, en octobre dernier, octobre 2025, j'étais là-bas pour prononcer la conférence inaugurale du Congrès, et là, j'ai appris l'existence d'un projet à l'Université de La Plata, métaphore et langage juridictionnel. C'est donc une étude, ces chercheurs se proposent d'étudier les patrons métaphoriques utilisés en justice, les métaphores qui sont utilisées dans les sentences. Par exemple, dire que le procès judiciaire est un chemin, que c'est une guerre, que c'est un rituel, ça nos journalistes le disent aussi en Europe, hein, que c'est une thérapeutique, une construction, un spectacle, ou alors présenter les lois comme des personnes. Et donc, il s'agit d'étudier des processus de pensée et d'analyse qui sont métaphoriques, parce que la pensée humaine a quelque chose de métaphorique pour ses conceptualisations. Voilà ma modeste contribution au sujet de métaphore et droit. Pour en terminer avec les métaphores lexicalisées, j'ajoute qu'elles posent le problème de la traduction. Puisque les métaphores ne passent pas toujours dans les langues étrangères, il paraît qu'avoir une araignée au plafond, c'est-à-dire divaguer, ça se dit en anglais avoir des chauves-souris dans le beffroi. On le comprend presque, mais enfin, c'est quand même pas pareil. On cite souvent l'erreur d'un étranger qui, sous l'Ancien Régime, avait écrit dans une dédicace de remerciement « Monseigneur, vous avez pour moi des boyaux de père ». Et il voulait dire des entrailles de père, parce que le mot « entraille » peut être pris au figuré pour dire les sentiments que l'on a pour quelqu'un, avoir des entrailles de mère, etc. Mais évidemment, boyaux, non, ne peut pas. Mais... Je continue à réfléchir sur les fonctions. Fonction de la métaphore, donc on a vu la métaphore lexicalisée. Ensuite... Ce qui est très simple, c'est la dichotomie fonction d'ornement et fonction d'argument. Nous savons que la métaphore orne en tant qu'elle est poétique, mais en même temps, elle a une valeur de preuve, c'est pour ça qu'elle est utilisée en rhétorique. Perelman, dans son traité de l'argumentation, a bien souligné comment la métaphore étant fondée sur une analogie, ça veut dire qu'il y a raisonnement et volonté d'argumenter pour démontrer quelque chose. En entrant plus dans le détail, on peut regarder les fonctions définies par la rhétorique à Irénus, donc c'est le premier traité de rhétorique latin avec le De Inventione de Cicéron que nous possédions, qui utilise la science grecque tout en prenant ses distances. Et il énumère pour les fonctions de la métaphore l'expressivité, pour mettre devant les yeux, la brièveté, puisqu'on ne dit pas comme, la bienséance. Donc la métaphore, ça peut être aussi un moyen d'éviter l'obscénité, par exemple quand on dit des noces coupables. C'est une façon de ne pas entrer dans le détail. L'amplification, la diminution, selon qu'on prend un point de comparaison élevé ou bas, et enfin l'ornement dont on parlait. Il minimise un peu, l'auteur minimise un peu la fonction argumentative, probablement. Henri Morier, dans le dictionnaire de poétique et de rhétorique que j'ai déjà cité, donne une autre liste que je vous donne oralement, la métaphore descriptive ou pittoresque, la métaphore explicative, la métaphore esthétique, sensuelle, la métaphore éclairante, profonde, et la métaphore énigmatique. Donc c'est une autre liste qui minimise elle aussi l'aspect d'argumentation, je crois. Il y a en outre, ça c'est les grandes fonctions d'ornement et d'argument, il y a en outre une valeur philosophique de l'image. Ce qui est ça a été relevé par les philosophes depuis Platon en particulier. Vous vous rappelez qu'à la fin du banquet, quand Alcibiade, ivre, entre au milieu des convives, il entreprend de faire l'éloge de Socrate, et pour cerner cet être si énigmatique, il utilise des images. Il le compare à un Silène, il le compare à Marsyas, pour découvrir qui il est réellement. Un autre texte célèbre sur cet usage philosophique des images est une consolation de Sénèque qui compare la vie à un voyage à Syracuse. C'est un très, très joli texte qui explique comment bien ça se présente bien, c'est plutôt attirant, on se fait une joie à l'avance de ce séjour dans cette belle cité. Mais il y a les difficultés du voyage, il y a la tyrannie exercée sur place, les risques que l'on court, et finalement on se dira, si tu as voulu aller à Syracuse, c'était ta décision, il faut que tu l'acceptes. Enfin, il y a un retournement qui est assez stoïcien. Donc, valeur philosophique de la métaphore. La métaphore est aussi utilisée dans les éloges. C'est un peu ce qu'on vient de voir avec le cas du banquet. En rapprochant deux réalités, la métaphore part l'une des mérites de l'autre. C'est un peu comme l'hyperbole. Il s'agit d'assimiler l'objet à quelque chose qu'il n'est pas pour mieux montrer ce qu'il est. C'est toute la force argumentative de l'image en général et de la métaphore en particulier. C'est pour ça que les métaphores sont considérées comme particulièrement appropriées à l'éloge. Un exemple, entre tant d'autres, chez Lucien, orateur et philosophe du IIe siècle après Jésus-Christ, l'auteur des Dialogues des Morts, qui, faisant une conférence philosophique, commence par un préambule qui est l'éloge de la salle dans laquelle il se trouve. Et une série de métaphores vont décrire cette salle. C'est le palais de Ménélas. Ce sont les rochers de la nature qui renvoient les paroles en écho. Il n'avait pas de micro, lui. C'est le décor du Phèdre. C'est le platane d'or du grand roi. Le plafond est comparé au ciel étoilé. La décoration des murs à une prairie en fleurs, donc c'est une salle très, très décorée, n'est-ce pas? Et le conférencier, c'est le cheval qui galope dans la plaine, ou encore pire, le paon qui fait la roue dans la prairie, et le vaisseau qui glisse sur les vagues. Il y a une concentration voulue, souriante, de métaphore. Là, dans une situation concrète, on voit comment la métaphore est un moyen de grandir un objet. Dans ce foisonnement de métaphores, le critère n'est pas la cohérence. Elles ne sont pas exactement les unes à côté des autres. Donc, elles se succèdent pour éclairer le réel d'un jour qui, chaque fois, est inattendu. Enfin, il y a encore un autre aspect de la métaphore, peut-être, qu'il faut prendre en compte, c'est la métaphore religieuse qui sert à dire l'ineffable. Par définition, le divin est au-delà du langage humain, et donc il risque d'échapper au langage. Et donc la métaphore est une des solutions pour remédier à cette impossibilité. Je vous cite un passage de Plotin, Énéade 6-8, dans lequel Plotin explique qu'il est illusoire de parler du bien. C'est le bien majuscule qui est la référence au divine dans son système. Et donc il demande qu'on lui permette de recourir à des mots, à des expressions qui s'entendent avec un comme si. Et donc voilà, pour parler du divin, dans le néoplatonisme, on utilise des mots, mais on sait que c'est toujours un comme si, oion. Donc la métaphore est une des armes de la rhétorique religieuse. On en connaît bien des emplois. Vous connaissez les litanies de la Vierge, c'est-à-dire lorsqu'on récite le rosaire. Porte de justice, siège de la sagesse, cause de notre joie, vase spirituel, vase d'honneur, vase éminent de piété, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, etc. C'est vraiment là la métaphore qui est utilisée pour décrire et grandir une réalité. Donc nous avons vu le système aristotélicien, sa critique implicite et ses remaniements, les fonctions des métaphores. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur un problème qui a intéressé encore les théoriciens, qui consiste dans les règles de bon usage des métaphores. Nous avons vu que la métaphore est un outil puissant, donc dangereux. Ce n'est pas seulement un moyen d'enjoliver, c'est beaucoup plus que cela, et donc la métaphore comporte des risques. Aristote avertit son public de deux dangers. Le premier danger, c'est l'obscurité. Si l'on abuse des métaphores, on tombe dans l'énigme. Une métaphore exagérée provoque une difficulté de compréhension. Il cite un cas où Homère a dit « tous ». Et puis, c'était pas tout le monde, en fait. Il voulait dire « beaucoup ». Et Aristote, pointilleux, dit « oui, mais alors, on comprend plus bien, puisqu'il a dit « tous » et il va y avoir une exception après ». Autre exemple, une phrase qui est citée dans le dictionnaire de rhétorique de Georges Molinier. Phrase de Georges Bernanos. Alors c'est un passage où Bernanos, que vous connaissez, s'en prend à l'évolution sociale de l'Église, en somme. Vous savez, Léon XIII, c'était le pape progressiste, l'encyclique Rerum Novarum, et ça ne plaisait pas à Bernanos, donc il vient de critiquer Jaurès, et puis il enchaîne, « Je laisse souffler les dindons, et j'ajoute... La politique de Léon XIII a ruiné le moral français. » Et Georges Molinier commande dindon, mais il ne commande pas souffler. Il n'arrive pas à rendre compte de cette phrase. Et il me semble que c'est un cas de métaphore où on est à la limite de l'énigme. Il faut réfléchir, il faut peut-être un peu s'armer de dictionnaire pour trouver. Donc dindon, c'est le caractère batailleur, et en même temps lourd et stupide. Ça, bon, c'est encore employé peut-être un peu aujourd'hui. Souffler, c'est un petit peu moins fréquent, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans le trésor de la langue française, il y a un article une partie de l'article. Quand le sujet désigne un animal, souffler, c'est expirer en faisant du bruit en signe de peur, de colère ou pour effrayer l'ennemi. Un tigre qui souffle. Les chevaux effrayés soufflaient. Le chat soufflait par intervalles. Donc, je pense que c'est ce que Bernanos a voulu dire ici. Je laisse les idiots protester. Ça, ce que veut dire, je laisse souffler les dindons. Et j'ajoute, non seulement je les laisse faire, mais je continue sans me préoccuper de leur objection, et j'ajoute, et ainsi de suite. Donc on est là au moment où la métaphore peut devenir obscure. Autre exemple, alors l'exemple de l'obscurité Mallarmé, bien sûr, il y a des métaphores et des métaphores obscures dans les poèmes de Mallarmé. Édouard Dujardin, qui était élève, disciple, admirateur de Mallarmé, écrit ceci. « Je me souviens que Mallarmé m'a dit un jour, je raye le mot « comme » du dictionnaire. » Il enchaîne « Voilà le secret de Mallarmé. » Il ne dit plus « telle chose ressemble à telle autre ». Pour lui, cette chose est devenue cette autre. C'est là, vous le voyez, une sorte d'acte de magie. Dans l'envoûtement, la poupée dont on perce le cœur pour obtenir la mort de l'ennemi qu'elle représente, cette poupée n'est plus l'image de l'ennemi qu'elle représente. Elle est devenue cet ennemi même. On peut se rendre compte à quelles difficultés, à quelles obscurités la suppression du mot « comme » a conduit Mallarmé en considérant ses dernières œuvres. Donc c'est la recherche systématique, délibérée de la métaphore comme recherche de l'obscurité. Dujardin, comme vous savez, c'est un très grand auteur. C'est l'auteur du roman « Les lauriers sont coupés ». Qui est le précurseur du flux de conscience. Vous savez, on suit le flux de conscience du personnage. Donc, avant Faulkner, avant Joyce, Dujardin avait déjà magnifiquement exploré ce domaine. Son témoignage sur Mallarmé, c'est un témoignage sur la métaphore. Donc, il y a le risque de l'obscurité. Le deuxième risque est le risque du ridicule. Si on utilise les métaphores de manière déplacée, dit Aristote. Alors, il y a l'emploi trivial. La République a été châtrée par la mort de Scipion l'Africain. Ce mot de châtré, déjà, est trivial. En plus, appliqué à la République, il ne convient pas. C'est un exemple donné par Quintilien d'une métaphore manquée. La métaphore tirée de loin, quand on dit les neiges de la tête, pour dire les cheveux blancs de quelqu'un, c'est trop loin. Il y a la métaphore poétique qui donc ne convient pas à un discours politique. Elle paraît pompeuse. Les oiseaux nagent dans les airs. Les événements frais et saignants. C'est Gorgias, ça. L'Odyssée est un miroir de la vie humaine. Et là, ça nous paraît très bien. L'Odyssée est un miroir de la vie humaine. En français, ce n'est pas choquant, mais ce mot de miroir, pour Aristote, était déplacé. Donc, c'est relatif aussi. Parmi les raisons du ridicule, il y a en particulier l'incohérence des métaphores. Donc, Quintilien dit par exemple « Beaucoup d'orateurs qui ont commencé par une tempête finissent par un incendie ou par un écroulement ». C'est une inconséquence du plus vilain effet. Et donc, l'exemple classique, c'est cette formule de M. Prudhomme, le char de l'État, navigue sur un volcan. Vous savez, M. Prudhomme, comme, au XIXe siècle, a été construit comme figure illustrant la sottise du discours officiel, en somme. Et donc là, on a des métaphores incompatibles qui se télescopent pour un effet comique. C'est le personnage de Henri Monnier, hein, dans des comédies et dans des dessins qu'on voyait Monsieur Prudhomme. Donc il faut user de la métaphore à bon escient, c'est-à-dire que le transfert doit être réglé, contrôlé, pour que le langage soit enrichi, mais pas compromis. d'où la notion de convenance, de mesure. Un autre grand rhétoricien, Hermogène, donne des préceptes précis. Hermogène, c'est un rhétoricien grec, fin du 2e, début du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est le Quintilien grec, d'une certaine façon. Enfin, c'est une œuvre très importante qui a exercé une influence dans l'Antiquité et à Byzance sur tout l'enseignement de la rhétorique. Et donc, dans un passage de son traité sur les formes du discours, il donne une sorte de gradation conseillée ou gradation dans l'usage des métaphores. Donc, la métaphore modérée va donner de la noblesse au discours. Il se place dans le cas d'un orateur, hein. On est dans la prose. La métaphore hardie va donner de la rudesse, encore plus hardie de la difficulté, on a vu les difficultés de compréhension. Enfin, la métaphore excessive rend le discours lourd et nul, et il prend pour exemple des métaphores sophistiques, trop poétiques selon lui. L'exemple, c'est une métaphore qui avait été utilisée par Gorgias, qui avait appelé les vautours « tombeaux vivants », puisqu'ils mangent les morts. C'est donc une expression forte, mais qui pour les anciens est trop, pourrait s'accepter dans une tragédie, mais est trop forte pour un discours de prose. Il y a un expédient facile que les théoriciens soulignent, c'est d'atténuer la métaphore en ajoutant « pour ainsi dire ». À ce moment-là, ça veut dire qu'on détruit la métaphore en la transformant en comparaison, en soulignant donc comme si, ou si l'on peut se permettre cette formulation. Donc c'est une façon d'excuser la métaphore en la détruisant. Pour terminer cette réflexion sur l'excès des métaphores, je citerai une lettre qui est très célèbre, une lettre de Flaubert à Louise Collet, sa correspondante, 1852. Flaubert est en pleine rédaction de Madame Bovary. Et il se dit assailli par les métaphores et comparaisons qui se présentent à son esprit, comparant cette prolifération, c'est pas très ragoûtant, mais expressif, à des poux qu'il doit constamment écraser. Donc il luttait contre un style trop métaphorique au nom de la recherche du réalisme, de la concision, du caractère impersonnel du romancier qui repousse le lyrisme. Et donc il écrit « Je crois que ma Bovary va aller ». Mais je suis gêné par le sens métaphorique qui décidément me domine trop. Je suis dévoré de comparaisons comme on l'est de poux, et je ne passe mon temps qu'à les écraser, mes phrases en grouillent. Et effectivement, il n'a pas éliminé toutes les métaphores et comparaisons, loin de là. J'en cite deux. Lors des comices, la vieille domestique Catherine Leroux, qui reçoit sa médaille, a le visage plus plissé de rides qu'une pomme de rainette flétrie. Métaphore banale, on pourrait dire, bien adaptée à la pomme, puisqu'on est en Normandie. Bon. Plus fort, à propos du docteur dans Bovary, son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendait droit dans l'âme et désarticulait tout mensonge à travers les allégations et les pudeurs. Voilà une dernière métaphore pour nous ce soir, désarticuler. Désarticuler au sens très précis, c'est un sens médical, hein. C'est faire sortir l'os de son articulation. Et donc, pour les amputations en déboîtant. Et donc ici, désarticuler le mensonge à travers les allégations, ça veut dire détacher cet élément, le mensonge, de l'ensemble dans lequel il est pris. Désarticuler tout mensonge à travers les allégations et les pudeurs. Voilà, je conclue rapidement ce long parcours à travers un immense, immense sujet. Je répète que je suis frappé par la continuité de la pensée occidentale, C'est vraiment la leçon de Curtius, hein. Nous sommes de plein pied avec ces textes d'Aristote, Quintilien et Hermogène. Et je me contente de récapituler quelques notions qui m'ont paru importantes. Donc nous avons vu dans la métaphore les notions de transfert, d'analogie, et puis le parallèle à faire ou l'inclusion à opérer dans la comparaison. Il faut remonter au concept de trope. La métaphore est avant tout un écart par rapport au sens propre. Cet écart n'est pas toujours poétique, ça peut être aussi l'effet de l'absence de mots propres, c'est la catachrèse, ou l'effet de la lexicalisation. La métaphore est un outil cognitif, donc c'est un moyen de connaissance, et en même temps c'est la mise en œuvre de l'imagination. Et puis, n'oublions pas la belle formule d'Aristote, observer le semblable. Donc, voir les ressemblances, c'est ça le cœur du sujet. Nous avons parlé aussi de la multiplication des métaphores qui peut arriver jusqu'à leur mise en série. Et enfin, nous avons parlé des règles de bon usage pour éviter les deux défauts, l'obscurité et le ridicule. Je vous remercie de votre attention.
Je prends la parole seulement pour remercier vivement le professeur Pernaud pour cette leçon magistrale. Vous avez été un grand pilote qui a fait naviguer notre char sur le volcan de la métaphore. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours et pour la conférence du 25 mars. Qui aura comme protagoniste Michele Prandi, et je pense que ce sera très intéressant parce que il va poursuivre cette réflexion, non pas du point de vue de la théorie, disons classique de la métaphore, mais du point de vue de la linguistique cognitive. Et donc vous allez voir ce que était au cœur de cette magnifique conférence, c'est-à-dire la continuité. C'est pas que ce que la linguistique nous dit aujourd'hui, c'est une rupture avec la pensée et dans certains points de vue, on revient toujours à Aristote. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.